Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, c'est donc une journée spéciale aujourd'hui sur France Culture, une journée pour marquer le 70e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et notre première invitée est l'écrivaine Houda Barakat. Son dernier roman, Courrier de nuit, est édité donc en France chez Actes Sud. Et dans ce court texte très intense, elle évoque des vies brisées pour des raisons politiques, d'idéologie, pour des raisons sociétales, d'orientation sexuelle et de malentendus historiques. On en parle dans un instant avec Houda Barakat. Et en fin d'émission, Auriane Jeancourt du magazine Transjuge viendra, comme tous les mois, faire partager ses coups de cœur littéraires. Le réveil culturel, c'est quand vous voulez, en passant par le podcast ou l'écoute en ligne, et c'est tous les jours à 6h du matin à la radio. Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Bouchard, avec ce matin la prise de son Bruno Mourlan.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Houda Barakat.
Bonjour Toufik Hakim.
Il y a donc tout juste 70 ans, le 10 décembre 1948, les États membres qui constituaient alors l'Assemblée Générale, les 58 États membres, ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, ici à Paris, au Palais Chaillot. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça vous évoque, cette date, cet anniversaire, cette Déclaration universelle des droits de l'homme, Houda Barakat ? Vous êtes né à Beyrouth et vous avez vécu toute la guerre du Liban avant de venir bien plus tard, en 1989, à Paris.
Oui, juste avant la fin. On ne savait pas que ça allait s'arrêter un jour. Donc, si vous voulez, c'est une vision du monde que moi, j'ai eue en temps de paix, dans une école de missionnaires, donc je ressemblais dans mes valeurs, si vous voulez, dans l'échelle de mes valeurs, dans mes options de bonheur, de désir, à ce qu'il y avait ici en France, ou dans les sociétés qu'on appelait des sociétés de grande démocratie. Mais tout ça, ça a été un peu chamboulé durant cette guerre civile. Et après la guerre, c'est ma manière de capter le monde qui était devenu très négative, en cherchant où ça n'allait pas. Et donc, arrivé à l'époque où nous sommes actuellement, c'est vrai qu'on s'attache davantage aux droits de l'homme, mais qu'est-ce qu'il en reste? Je veux dire, là, maintenant, la grande question, c'est qu'on est presque dans ces grandes démocraties, sur le bord de quelque chose qui déjà fait peur un peu, mais qu'on n'arrive pas à voir, qu'on n'arrive pas à déceler.
Vous voulez dire que les droits de l'homme sont bafoués dans des pays qui ne sont pas en guerre et qui sont des grandes démocraties?
C'est ça. Très fortement bafoué.
Et pour vous, cette Déclaration universelle des droits de l'homme, elle a existé d'ailleurs dans votre imaginaire? Vous saviez, vous connaissez cette histoire?
Bien
sûr. Sortir de la guerre, ça a été important pour vous?
La guerre a commencé, la guerre civile, elle a commencé
en 75.
En 75 et en 70, 71, j'étais déjà à l'université. Et vous savez, Beyrouth, c'était vraiment une ville assez bizarre, assez... est très ouverte dans tous les cas, c'est-à-dire moi je pouvais savoir depuis Beyrouth tout ce qui se passait dans le monde. Je lisais ce que lisaient les jeunes Français à la même époque. On était très attachés à l'idée de ce que l'humanité est arrivée à mettre en place. Et c'était, si vous voulez, une des lumières qu'on essayait aussi de suivre de chez nous.
Alors je vous pose cette question, et même si je vous invitais aujourd'hui, alors qu'on marque les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Houda Barakat, c'est parce que dans votre dernier roman paru, Courrier de nuit, vous ne parlez en réalité que de ça, de droits de l'homme bafoués, parce qu'il s'agit de vies brisées, que vous nous livrez d'ailleurs par bribes, parce que c'est un roman épistolaire, mais avec cette différence de taille, ce sont des lettres perdues, des lettres jamais arrivées à leur destinataire, des lettres trouvées par hasard dans le bottin d'un vieux bottin d'une chambre d'hôtel ou dans un casier de bar, et qui sont lues par d'autres personnages qui vont eux-mêmes se raconter et réagir à la place des personnes qui ont écrit ces lettres et des destinataires qui ne les ont jamais reçues.
Oui, exactement. C'est-à-dire que Notre époque est une époque qui est très très triste parce que justement les droits de l'homme sont à ce point bafoués qu'il y a des migrants actuellement qu'on compte par non plus par des dizaines de milliers mais par des millions de par le monde. Et ça ne va qu'empirer parce qu'avec les catastrophes écologiques qui vont arriver, c'est des millions qui vont qu'on est obligé
d'accueillir, secourir ou d'accueillir, oui.
Oui. Dans des régions qui vont être d'ici là plus ou moins stables à ce niveau-là. Si vous voulez, un point culminant de cet état de délabrement de la conscience humaine collective, directement lié aux droits de l'homme, bien sûr, c'est ces migrants-là qui meurent sur les routes.
Ou en mer,
plutôt. Et c'est une masse qu'on ne voit pas de près. C'est-à-dire, on a deux attitudes, deux approches. Ou bien ils vont nous ramener un virus et il faut fermer toutes les portes de l'endroit civilisé, c'est-à-dire de l'Occident. Et soit il faut accueillir tout le monde. Et ça aussi, c'est, si vous voulez, pour moi, cette deuxième approche manque aussi de respect parce qu'elle voit ces gens-là comme une masse, et on ne voit pas d'où ils sont venus, et on ne veut pas regarder d'où sont venus ces gens, parce que ce même Occident est impliqué jusqu'à l'os dans ce qui a fait que ces gens-là ont quitté chez eux.
Tous les problèmes qu'on rencontre dans votre livre « Courrier de nuit » ou « d'Abaraket » n'ont pas un rapport direct avec les grandes migrations actuelles ou les catastrophes écologiques. Mais il y a un inventaire à travers les lettres et donc les personnages de toutes ces personnes qui ont été obligées de s'exiler, de se cacher pour échapper quand ils peuvent à la prison, pour échapper quand ils peuvent à la torture. Et ce sont donc des régimes plutôt politiques qui sont responsables de leur malheur. C'est aussi la société qui est responsable de leur malheur. Il y a aussi des histoires d'amour contrarié. Il y a un jeune qui est homosexuel aussi parmi toute la panoplie de personnages que vous nous présentez à travers ces lettres dans Courrier de nuit. Ce n'est pas un inventaire, mais ça y ressemble, non?
Ça y ressemble peut-être un peu, mais c'est pourquoi j'ai essayé de ne pas donner plus d'indices sur les lieux d'où sont partis ces gens-là, ces individus, ces marginaux, on va dire. Ce sont des gens dans des moments de faiblesse, et je fais comme un arrêt sur une image. Ce moment dans la nuit où ils ont juste envie d'écrire une lettre, tout en écrivant la lettre, ils savent déjà, comme on peut le lire, que cette lettre n'arrive pas à destination. C'est-à-dire, elle est écrite pour ne pas arriver à destination. C'est-à-dire que j'ai essayé de m'approcher tellement de ces abîmes-là, de ces âmes-là, et de les écouter écrire sans pour autant expliquer, c'est-à-dire je n'explique pas, je ne entre guillemets raconte pas d'où ils viennent exactement, qu'est-ce qu'ils ont vécu avant ce moment de l'écriture, ni ce qu'il va leur arriver après.
Et en même temps, Ouda Baraket, vous ne nous livrez pas ces lettres telles quelles, ce sont des lettres qui sont retrouvées et lues par d'autres personnes.
Oui, en fait la lettre est lue par quelqu'un d'autre, donc on ne voit pas quand elle est écrite, ni des fois elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, des fois elle arrive pas entière du tout, donc déchirée, et c'est le désir d'écrire qu'elle va créer chez celui qui va la trouver, qui va la lire.
Et qui va à son tour se mettre à écrire et donc à raconter une autre histoire.
Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas lui qui va raconter l'histoire, mais celui qui va trouver cette deuxième ou troisième ou quatrième lettre et qui va quand même essayer d'écrire à son tour.
أرزق خالد مهما تدمر البيوت
Courrier de nuit, le dernier roman de Houda Barakat, est une somme de lettres, de personnages qu'on ne connaîtra jamais puisqu'ils n'interviennent pas en tant que personnages. Ce sont les traces, c'est un livre de traces en fait. C'est comme si vous vouliez réunir toutes les traces de guerre, de conflits sociaux ou idéologiques ou culturels qui ont traversé plutôt le monde arabe.
On peut dire ça, oui. Mais moi, quand je l'ai écrit, j'étais beaucoup plus dans la profondeur de la solitude que j'imaginais envelopper ces gens-là. Et c'est pourquoi ces courriers de nuit, c'est-à-dire à un moment de grand désespoir, ces personnages, ces écrivains de lettres, on va dire, ils vont se poser derrière une fenêtre pour regarder la nuit. Et donc, c'est un peu le titre et la couverture. C'est vrai que...
Enfin, seuls, ils ne sont pas toujours seuls. Des fois, ils sont surveillés, ils sont guettés.
Donc, c'est à ce point qu'ils sont, seuls parce qu'ils sont guettés par des gens avec qui ils ne peuvent pas communiquer et qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire, ça, c'est l'ignorance dans ces moments-là de solitude et d'autant plus effrayante. Parce que celui qui, par exemple, comme vous dites... Celui qui est épié par quelqu'un, est-ce qu'il est vraiment épié ou bien
est-ce que c'est pour
on
des
le
raisons
sait
politiques
pas.
Ou pour d'autres raisons on ou, le sait pas
ou pas épié du tout, c'est-à-dire peut-être que c'est quelqu'un de mukhabarat de son pays
donc parce des que, services secrets ouais.
Voilà des services secrets parce c'est... qu'il s'est rendu compte qu'on ne voulait pas lui renouveler son passeport et il a essayé donc d'aller vers l'opposition, il s'est dit peut-être que cela. Et il n'y a pas de militants, je veux dire, il n'y a pas de grandes croyances.
Ce sont des gens plutôt fragiles.
Très fragiles et qui ne croient plus à rien.
Enfin, des hommes et des femmes, beaucoup de femmes d'ailleurs, qui essayent de s'en sortir. Et tout ça, effectivement, il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu précis. C'est comme une somme de tout ce qui a traversé, mais surtout cassé le monde arabe ou la région arabe. Et encore, je le dis parce qu'il y a quelques indices, bien sûr, qui nous permettent de géolocaliser certaines histoires, mais on le dit spontanément parce qu'on sait que vous êtes franco-libanaise, que vous venez de Beyrouth et que vous avez vécu la guerre libanaise. Peut-être que si on ne savait pas que ce livre a été écrit par vous, Houda Barakat, on aurait dit que ces histoires où des hommes se battent contre des sociétés patriarcales, des hommes et des femmes, je le rappelle, des sociétés patriarcales.
Ils ne se battent plus.
Oui, ou victimes, vous avez raison. Ils sont plutôt victimes de toutes les oppressions.
Ils sont partis chez eux.
Et ils sont partis, enfin, quand ils ont pu. Mais alors, justement, pourquoi cette manière, justement, de ne jamais les inscrire dans un conflit donné, dans un pays donné, dans une époque précise ?
Parce que vous savez, toute cette région, même avant les printemps arabes, toute cette région a traversé des temps qui sont très difficiles. Et qu'on n'arrive plus, si vous voulez, même avec toute la bonne intention du monde, à analyser d'une manière logique qu'est-ce qui maintenait ces dictatures, qu'est-ce qui faisait que ces systèmes vérolés par la corruption se maintiennent. Partout, vous avez des exemples, les exemples ne manquent pas. Et ne pas les situer géographiquement... que par des touches comme ça, qu'on peut des fois deviner, des fois pas, c'est parce que ce sont eux qui écrivent, ce sont eux qui parlent. Et c'est-à-dire, il n'y a pas de narrateur. Pour moi, ces gens-là, ce qui les réunit, c'est de se sentir étrangers. Très étrangers. Et de n'avoir atterri nulle part. Là où ils sont actuellement, et pas seulement étrangers, mais ils sont sur le départ. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui cherchent à rester là où ils sont. C'est un moment de leur fuite en avant, mais ils vont continuer. Vous avez l'impression que ces gens-là, ils vont continuer pour aller quelque part d'autre. Maintenant, quand vous avez fait comme ça une petite remarque autour de l'écrivain que je suis, c'est vrai, si je n'avais pas ce sentiment d'être une étrangère, profondément étrangère, bien que je sois française, très bien reçue par la France, avec le bagage que j'ai, j'ai cette sensibilité d'avoir des antennes d'étrangère.
Et diriez-vous que le combat qui a animé votre jeunesse, le combat pour les droits de l'homme, est toujours un combat d'actualité au Liban ?
Pas du tout. Mais je peux vous dire pourquoi. Je peux m'expliquer. Il y a, si vous voulez, des marginaux, une infime minorité qui parle encore de droits de l'homme au Liban, parce que maintenant, c'est les droits des confessions, c'est les droits qui priment. Ce sont les droits de la communauté. Le Liban est très divisé. Actuellement, il est même en miettes par rapport à l'appartenance confessionnelle. Il n'y a que les artistes qui peuvent encore parler un peu de droits de l'homme, mais personne ne les écoute. C'est un état grave. Le pays n'est pas en guerre. Mais même au temps de la guerre, on avait un discours qui se maintenait, qui faisait écho un peu à ce qui se passait en la matière dans le monde entier. Là, maintenant, je suis peut-être personnellement très, très pessimiste, ou j'ai une vision peut-être sombre, mais maintenant, ce sont les imams, les patriarches, les miliciens, les grands chefs de miliciens qui ont les derniers mots. Même quand je vais au Liban, moi, je n'ai aucune activité dans ce sens-là.
Mais votre roman est sorti au Liban. Et c'est une défense des femmes et des hommes face à des régimes autoritaires, face à des sociétés très castatrices. C'est un engagement que d'écrire ce livre Courrier de nuit, non?
Oui, pour vous, pour moi, Tofik, mais les gens qui lisent sont très solidaires, ils adorent le livre, il se vend très très bien dans le monde arabe, mais c'est parce qu'ils réalisent que de qui je parle, c'est-à-dire comment l'image négative, si vous voulez, que renvoie mon livre, les ramène à leur impuissance. C'est-à-dire quelqu'un qui va aimer le livre, qui va voir ses dessins brisés, ses errants, dont il connaît peut-être une grande partie, parce que c'est des cousins à lui. Même pour ceux qui sont restés et qui lisent le livre en arabe dans leur pays arabe, savent à quel point on est désespéré. Moi, ça me suffit de toucher les gens pour leur faire s'arrêter un moment pour voir qu'est-ce qui se passe chez ces gens-là. Et après, moi, je pense que ce n'est pas dans ma génération qu'on va trouver des voix qui combattent ou la Tunisie quand même, elle continue. Et quelques voix qui se lèvent ici et là, mais il n'y a pas, vous savez, les printemps arabes, et ça a été vraiment une tragédie pour tout le monde. C'est-à-dire le fait qu'il n'ait pas réussi à bouger un tout petit peu les choses et que le retour des bâtons a fait de tels dégâts que maintenant ceux qui avaient de l'espoir, maintenant ils savent que ça n'est plus pour demain ni pour après-demain.
Merci vous d'abord, Raquel, d'être passé ce matin. C'est vrai qu'on s'est rencontrés dans d'autres conditions, vous étiez un peu moins pessimiste.
Eh oui, certainement, j'étais plus jeune aussi.
Dans un instant, Oriane Jeancourt prendra votre place. Vous d'abord, Raquel, merci d'être passé ce matin.
Merci beaucoup.
Courrier de nuit est édité dans la collection Sinbad chez Actes Sud.
Le réveil culturel. Tofik Hakem.
Et on retrouve Oriane Jeancourt du magazine Transfuge. Bonjour Oriane.
Bonjour Tofik.
Ce matin, mais avec vous, on parle littérature, comme toujours d'ailleurs. Mmh. Et cette fois-ci, c'est une littérature américaine que vous venez défendre.
Oui, absolument.
Ou c'est plutôt un auteur américain.
Un auteur américain. Je ne porterai pas la littérature américaine sur mon dos, mais là, lui la porte, puisque c'est Richard Powers, qui est un écrivain américain déjà très reconnu. Hein. Il a eu le National Book Award, ça fait 30 ans qu'il écrit. Mais là, il écrit, à mon sens, et je crois au sens général, son plus grand roman, qui est L'Arbre-Monde.
L'Arbre-Monde au Cherche-Midi.
Aux éditions du Cherche-Midi. Alors, c'est en effet un livre-monde, pour dire les choses. C'est un livre énorme qui est construit sous forme d'arbre. Parce que donc c'est un roman polyphonique. On suit 9 personnages qui ont tous en commun d'avoir été bouleversés, d'avoir été même de s'engager pour les arbres et pour la perpétuation des forêts. Alors, il est parti d'une histoire qu'on a sans doute oubliée, mais qui était en 1990. Il y a eu un groupe d'activistes écologistes en Californie qui, vous savez, s'enchaînaient aux arbres et notamment aux énormes pins californiens, parce que il y avait toute une campagne pour, à l'époque, couper, élaguer la forêt californienne et ses arbres qui étaient multicentenaires. Et donc, il y a eu une bande d'activistes qui sont allés jusqu'à ce que certains ont appelé l'écolo-terrorisme, donc pour essayer de sauver ces arbres et de les empêcher d'être abattus. Et la réponse policière a été à l'époque extrêmement violente, et même la réponse judiciaire, puisqu'il y a l'un d'entre eux qui a été condamné à plusieurs dizaines d'années de prison. Et donc, il revient sur cette histoire et il s'est plongé pendant 3-4 ans dans cette histoire, dans la vie de ces personnages que l'on suit, je vous dis, de manière arborescente, puisqu'on suit leurs 9 vies en même temps, leur moment tous de prise de conscience, à quel moment ils ont décidé de vouer leur vie, leurs engagements à l'arbre, aux arbres, à la défense des arbres, comment est-ce qu'ils ont vécu chacun une forme d'histoire d'amour, de rédemption avec ces forêts, et comment est-ce que voilà, ils ont livré leur vie pour ça. C'est un livre résolument engagé, il n'y a pas de doute. Et Richard Powers, que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai fait un long entretien, eh bien, m'expliquait qu'il assumait totalement. C'est son livre le plus politique, mais aujourd'hui, dans une Amérique, dit-il, en pleine régression écologique, et Donald Trump fait aussi une certaine régression envers les forêts, puisque vous savez qu'il a rétabli les mines d'extraction, ce qui oblige à raser un certain nombre de forêts aux États-Unis. Eh bien, Donald Trump trahit, selon lui, la passion qu'avait l'Amérique pour sa nature et notamment pour ses forêts. On se rappelle de ce merveilleux livre d'Emerson qui s'appelait Nature, et qui disait que c'était dans le lien avec la nature que l'homme devait se retrouver lui-même. Eh bien, c'est exactement ça qui anime L'Arbre-Monde de Richard Powers. C'est ce lien mystique, si vous voulez, en tout cas terriblement humain, que Richard Powers essaie de rétablir à travers ses personnages dans le dialogue avec les forêts, dans cet engagement qui les dépassent eux-mêmes pour sauver les forêts. Donc, si vous voulez, c'est un roman bouleversant qui évidemment nous fait longuement réfléchir sur notre place d'humain sur la planète, mais aussi qui nous fait réfléchir sur la terrible solitude qu'est celle de l'homme qui choisit l'humanité contre la nature.
L'Arbre-Monde de Richard Powers, c'est édité au Cherche Midi, et l'interview de l'auteur américain par Oriane Jeancourt est à retrouver dans le dernier numéro de Transfuge en kiosque.
Absolument, en décembre.
Merci à vous, Oriane Jeancourt. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve bientôt.
Mais avec plaisir.
C'est-à-dire l'année prochaine, quoi.
Oui, bien sûr, à l'année prochaine.